Chapitre 4. Mettant leur amour-propre à lutter de flegme et d'impassibilité, ni le docteur Saignebose, ni M. Galpin d'Aveline n'avaient fait un mouvement pour reconnaître ce qui se passait tout dehors. Le médecin s'apprêtait à reprendre son opération et, méthodiquement, tranquille autant que s'il eût été chez lui, dans son cabinet, il lavait l'éponge dont il venait de se servir et essuyait ses pinces et ses bistouris. Le juge d'instruction, lui, debout au milieu de la chambre, les bras croisés, semblait suivre de l'œil, dans le vide, d'insaisissables combinaisons. Peut-être songeait-il que sa bonne étoile l'avait enfin guidé vers cette cause retentissante qu'il avait si longtemps et si inutilement appelée de tous ses vœux. Mais M. de Clodieuse était loin de partager leur indifférence. Il s'agitait sur son lit, et dès que M. Sénéchal et M. d'Aubigeon reparurent, pâles et bouleversés, « Pourquoi ce tumulte ? » interrogea-t-il. Et lorsqu'on lui eut appris la catastrophe, « Mon Dieu ! » s'écria-t-il, « et moi qui gémissais de me voir en partie ruiné. Deux hommes morts, voilà le vrai malheur. Pauvres gens, victimes de leur courage. Bolton, un garçon de 30 ans. Guillebeau, un père de famille qui laisse 5 enfants sans soutien. » La comtesse qui rentrait avait entendu les derniers mots prononcés par son mari. « Tant qu'il nous restera une bouchée de pain, » interrompit-elle d'une voix profondément troublée, « ni la mère de Bolton, ni les enfants de Guillebeau ne manqueront de rien. » Elle n'en put dire davantage. Les paysans qui avaient découvert Coqueleu envahissaient la chambre, poussant devant eux leurs prisonniers. « Où est le juge ? » demandait-il. « Voilà un témoin. »« Quoi ? Coqueleu ? » s'écria le comte. « Oui, il sait quelque chose, il l'a dit, il faut qu'il le répète à la justice et que l'incendiaire soit retrouvé. » M. Saignebeau avait froncé le sourcil. Il exécrait Coqueleu, ce cher docteur, dont la vue lui rappelait cette fameuse expérience dont on fait encore des gorges chaudes à Sauveterre. « Est-ce que véritablement vous allez l'interroger ? » demanda-t-il à M. Galpin d'Aveline. « Pourquoi non ? » fit sèchement le juge. « Parce qu'il est complètement imbécile, monsieur, stupide, idiot, parce qu'il est incapable de saisir la valeur de vos questions et la portée de ses réponses. Il peut nous fournir un indice précieux, monsieur. Lui, un être dénué de raison. Vous n'y pensez pas ? Il est impossible que la justice tienne compte des réponses incohérentes d'un fou. » Le mécontentement de M. Galpin d'Aveline se traduisait par un redoublement de roideur. « Je sais ce que j'ai à faire, monsieur, » dit-il. « Et moi, » riposta le médecin, « je connais mon devoir. Vous avez requis le concours de mes lumières, je vous l'apporte. Je vous déclare que l'état mental de ce garçon est tel qu'il ne saurait être entendu, même à titre de renseignement. J'en appelle à monsieur le procureur de la République. » Il espérait un mot d'encouragement de monsieur d'Aubigeon. Le mot ne venant pas, « Prenez garde, monsieur, » ajouta-t-il, « vous vous engagez dans une voie sans issue. Que ferez-vous si ce malheureux répond à vos questions par une accusation formelle ? Poursuivrez-vous celui qui l'accusera ?» Les paysans écoutaient, bouche béante, cette discussion. « Oh, Coqueleu n'est pas tant innocent qu'on croit, » fit l'un d'eux. « Il sait bien dire ce qu'il veut, le matin, » ajouta un autre. « Je lui dois en tout cas la vie de mes enfants, » prononça doucement Madame de Clodieuse. « Il s'est souvenu d'eux lorsque j'étais comme frappée de vertige et que tout le monde les oubliait. Approche, Coqueleu, approche, mon ami, n'aie pas peur, personne ici ne te veut de mal. » Il était bien besoin de ces bonnes paroles. Effrayé au-delà de toute expression par les brutalités dont il venait d'être l'objet, le pauvre idiot tremblait si fort que ses dents en claquaient.
« Je n'ai pas peur, » bégaya-t-il.
« Une fois encore, je proteste, » insista le médecin. Il venait de reconnaître qu'il n'était pas seul de son avis. « Je crois en effet qu'il est peut-être dangereux d'interroger Coqueleu, » dit M. de Clodieuse. « Je le crois aussi, » appuya M. d'Aubigeon. « M. mais le juge était le maître de la situation, armé des pouvoirs presque illimités que la loi confère au magistrat instructeur. « Je vous en prie, messieurs, » fit-il d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. « Laissez-moi agir à ma guise. » Et, s'étant assis et s'adressant à Coqueleu, « Voyons, mon garçon, » reprit-il de sa meilleure voix, « écoute-moi bien et tâche de me comprendre. Sais-tu ce qu'il y a eu cette nuit au Valpinçon ?»«
Le feu !» répondit l'idiot.
« Oui, mon ami, le feu qui a détruit la maison de tes bienfaiteurs, le feu où viennent de périr deux pauvres pompiers. Et ce n'est pas tout. On a essayé d'assassiner le comte de Claudieuse. Le vois-tu dans ce lit, blessé et couvert de sang ? Vois-tu la douleur de madame de Claudieuse ?»
Coqueleu comprenait-il, sa figure grimaçante ne trahissait rien de ce qui pouvait se passer en lui.
« Absurdité !» grommelait le docteur. « Témérité, ténacité !» M. Galpin d'Aveline l'entendit. « Monsieur, prononça-t-il vivement, ne m'obligez pas à me rappeler qu'il y a là, tout près, des gens chargés de faire respecter mon caractère. » Et revenant au pauvre idiot, « Tous ces malheurs, mon ami, poursuivit-il, sont l'œuvre d'un lâche incendiaire. Tu le détestes, n'est-ce pas, ce misérable? Tu le hais ?»«
Oh, oui, » dit Coqueleu.
« Tu désires qu'il soit puni ?»«
Oui. »
« Eh bien, il faut m'aider à le découvrir pour qu'il soit arrêté par les gendarmes, mis en prison et jugé. Tu le connais, tu as dit toi-même que tu le connaissais. » Il s'arrêta et, au bout d'un instant, Coqueleu se taisant toujours. « Dans le fait, demanda-t-il, à qui ce pauvre diable a-t-il parlé ?» C'est ce que pas un paysan ne put dire. On s'informa, on n'apprit rien. Peut-être Coqueleu n'avait-il pas tenu le propos qu'on lui attribuait. « Ce qui est sûr, déclara un des métayers du Valpinçon, c'est que ce pauvre sans-cervelle ne dort autant dire jamais et que toutes les nuits il rôde comme un chien de garde autour des bâtiments. » Ce fut pour M. Galpin d'Aveline un trait de lumière. Changeant brusquement la forme de l'interrogatoire, « Où as-tu passé la soirée ? » demanda-t-il à Coqueleu.
« Dans la cour. »
« Dormais-tu quand l'incendie s'est déclaré ?»«
Non. »«
Tu l'as donc vu commencer ?»«
Oui. »«
Comment a-t-il commencé ?»
Obstinément, l'idiot tenait ses regards rivés sur madame de Claudieuse avec l'expression craintive et soumise du chien qui cherche à lire dans les yeux de son maître.
« Réponds, mon ami, » insista doucement la comtesse. « Obéis, parle. » Un éclair brilla dans les yeux de Coqueleu.
« On a mis le feu » bégaya-t-il.
« Exprès ?»«
Oui. »«
Qui ?»«
Un monsieur. »
Il n'était pas un des témoins de cette scène qui, pour mieux entendre, ne retint sa respiration. Seul le docteur se dressa. « Cet interrogatoire est insensé » s'écria-t-il. Mais le juge d'instruction ne parut pas l'entendre et, se penchant vers Coqueleu, d'une voix qu'altérait l'émotion, « Tu l'as vu, ce monsieur » demanda-t-il.
« Oui. »«
Et tu le connais ?»«
Très bien. »«
Tu sais son nom ?»«
Oh, oui. » »«
Comment s'appelle-t-il ?»
Une expression d'affreuse angoisse contracta la figure blême de Coqueleu. Il hésita, puis, enfin, avec un violent effort, il répondit
« Bois-Coran !»
Des murmures de mécontentement et des ricanements incrédules accueillirent ce nom. D'hésitation, de doute, il n'y en eut pas l'ombre.
« Monsieur de Bois-Coran, un incendiaire, disaient les paysans, à qui jamais fera-t-on à croire ça ?»«
C'est absurde !» déclara Monsieur de Claudieuse.
« Insensé !» approuvèrent Monsieur Sénéchal et Monsieur d'Aubigeon. Le docteur Saignebosse avait retiré ses lunettes et les essuyait d'un air de triomphe.
« Qu'avais-je annoncé ? S'écria-t-il.
mais monsieur le juge d'instruction n'a pas daigné tenir compte de mes observations. »
Monsieur le juge d'instruction était de beaucoup le plus ému de tous. Il était devenu excessivement pâle et les efforts étaient visibles qu'il faisait pour garder son impassible froideur. Le procureur de la République se pencha vers lui.
« À votre place, murmura-t-il, j'en resterai là, considérant comme non avenu ce qui vient de se passer. »
Mais M. Galpin d'Aveline était de ces gens qu'aveuglent l'opinion exagérée qu'ils ont d'eux-mêmes et qui se feraient hacher en morceaux plutôt que de reconnaître qu'ils ont pu se tromper.
« J'irai jusqu'au bout, » répondit-il.
Et s'adressant de nouveau à Coqueleu, au milieu d'un silence si profond qu'on eût entendu le bruissement des ailes d'une mouche,
« Comprends-tu bien, mon garçon, lui demanda-t-il, ce que tu dis ? Comprends-tu que tu accuses un homme d'un crime abominable ?»
Que Coqueleu comprit ou non, il était en tout cas agité d'une angoisse manifeste. Des gouttes de sueur perlaient le long de ses tempes déprimées et des secousses nerveuses secouaient ses membres et convulsaient sa face.
« Je dis la vérité, bégaya-t-il.
C'est monsieur de Boiscoran qui a mis le feu au Valpinson ?
Oui.
Comment s'y est-il pris ? L'œil égaré de Coqueleu allait incessamment du comte de Claudieuse, qui semblait indigné, à la comtesse, qui écoutait d'un air de douloureuse surprise.
Parle, insista le juge d'instruction.
Après un moment d'hésitation encore, l'idiot entreprit d'expliquer ce qu'il avait vu, et il en eut pour 5 minutes d'efforts, de contorsions et de bégaiements à faire comprendre qu'il avait vu M. de Boiscoran, qu'il connaissait bien, sortir des journaux de sa poche, les enflammer avec une allumette et les placer sous une meule de paille qui était toute proche de 2 énormes piles de fagots, lesquelles piles s'appuyaient au mur d'un chai plein d'eau-de-vie.
« C'est de la démence !» s'écria le docteur, traduisant certainement l'opinion de tous.
Mais M. Galpin d'Aveline avait réussi à maîtriser son trouble, promenant autour de lui un regard méchant.
« À la première marque d'approbation ou d'improbation, déclara-t-il, je requiers les gendarmes et je fais retirer tout le monde. »
Après quoi, revenant à Coqueleu,
« Puisque tu as si bien vu M. de Boiscoran, interrogea-t-il, comment était-il vêtu ?»« Il avait un pantalon blanchâtre, » répondit l'idiot, toujours en bredouillant affreusement, « une veste brune et un grand chapeau de paille. Son pantalon était rentré dans ses bottes. »
2 ou 3 paysans s'entre-regardèrent, comme si, enfin, ils eussent été effleurés d'un soupçon. C'était avec le costume décrit par Coqueleu qu'ils avaient l'habitude de rencontrer M. de Boiscoran.
« Et quand il eut mis le feu, poursuivit le juge, qu'a-t-il fait ?»« Il s'est caché derrière les fagots. »«
Et ensuite ?»«
Il a préparé son fusil et quand le maître est sorti, il a tiré. »
Oubliant la douleur de ses blessures, M. de Claudieuse bondissait d'indignation sur son lit.
« Il est monstrueux, s'écria-t-il, de laisser ce misérable idiot salir un galant homme de ses stupides accusations. S'il a vu M. de Boiscoran mettre le feu et se cacher pour m'assassiner, pourquoi n'a-t-il pas donné l'alarme? Pourquoi n'a-t-il pas crié ?»
Docilement, à la grande surprise de M. Sénéchal et de M. d'Aubigeon, M. Galpin d'Aveline répéta la question.
« Pourquoi n'as-tu pas appelé ? » demanda-t-il à Coqueleu.
Mais les efforts qu'il faisait depuis une demi-heure avaient épuisé le malheureux idiot. Il éclata d'un rire hébété et presque aussitôt, prise d'une crise de son mal, il tomba en se débattant et en criant, et il fallut l'emporter. Le juge d'instruction s'était levé, et pâle, ému, les sourcils froncés, la lèvre contractée, il semblait réfléchir.
« Qu'allez-vous faire ? » lui demanda à l'oreille le procureur de la République.
« Poursuivre, dit-il à voix basse.
Oh ! Puis-je faire autrement dans ma situation ? Dieu m'est témoin qu'en poussant ce malheureux idiot, mon but était de faire éclater l'absurdité de son accusation. Le résultat a trompé mon attente. Et maintenant ?
Il n'y a plus à hésiter. 10 témoins ont assisté à l'interrogatoire. Mon honneur est en jeu. Il faut que je démontre l'innocence ou la culpabilité de l'homme accusé par Coqueleu. Et tout aussitôt, s'approchant du lit de M. de Clodieuse,
« Voulez-vous, à cette heure, monsieur, m'apprendre ce que sont vos relations avec M. de Boiscoran ?»
La surprise et l'indignation enflammaient les joues du comte.
« Est-il possible, monsieur, s'écria-t-il, que vous croyiez ce que vous venez d'entendre ?»«
Je ne crois rien, monsieur, prononça le juge. J'ai mission de découvrir la vérité, je la cherche. »
« Le docteur vous a dit quel est l'état mental de Coqueleu ?»«
Monsieur, je vous prie de me répondre. »
M. de Clodieuse eut un geste de colère et vivement.
« Eh bien, répondit-il, mes relations avec M. de Boiscoran ne sont ni bonnes ni mauvaises, nous n'en avons pas. »
« On prétend, je l'ai entendu dire, que vous êtes fort mal ensemble. »
« Ni bien ni mal, je ne quitte pas le Valpinçon. » M. de Boiscoran vit à Paris les trois quarts de l'année. Il n'est jamais venu chez moi, je n'ai jamais mis les pieds chez lui.
On vous a entendu vous exprimer sur son compte en termes peu mesurés.
C'est possible, nous n'avons ni le même âge, ni les mêmes goûts, ni les mêmes opinions, ni les mêmes croyances. Il est jeune, je suis vieux. Il aime Paris et le monde, je n'aime que ma solitude et la chasse. Je suis légitimiste, il était orléaniste et est devenu démocrate. Je crois que seul le descendant de nos rois légitimes peut sauver notre pays. Il est persuadé que la République est le salut de la France. Mais on peut être ennemi politique sans cesser de s'estimer. Monsieur de Boiscoran est un galant homme. Il est de ceux qui, pendant la guerre, ont fait bravement leur devoir. Il s'est bien battu, il a été blessé.
Soigneusement, M. Galpin d'Aveline notait les réponses du comte. Ayant fini,
« Il ne s'agit pas seulement de dissentiments politiques, reprit-il. Vous avez eu avec M. de Boiscoran des conflits d'intérêts. »
« Insignifiant.
Pardon, vous avez échangé du papier timbré. »
« Notaire se touche, monsieur. Il y a entre nous un malheureux cours d'eau qui est pour les riverains un éternel sujet de contestation. »
M. Galpin d'Aveline hochait la tête.
Vous n'avez pas eu que ces différends, monsieur, dit-il. Vous avez eu, au sud et vu de tout le pays, des altercations violentes.
Le comte de Clodieuse paraissait désolé.
C'est vrai, nous avons échangé quelques propos. M. de Boiscoran avait deux maudits bassés qui toujours s'échappaient de leur chenil et venaient chasser sur mes terres. C'est incroyable ce qu'ils détruisaient de gibier.
« Précisément, et un jour que vous avez rencontré M. de Boiscoran, vous l'avez menacé de donner un coup de fusil à ses chiens. »
« J'étais furieux, je le reconnais, mais j'avais tort, mille fois tort. Je l'ai menacé. »
« C'est bien cela. Vous étiez armés l'un et l'autre, vous vous êtes animés, vous menaciez, il vous a couché en joue. Ne le niez pas, 10 personnes l'ont bu, je le sais, il me l'a dit. »